France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
On dit souvent d'un écrivain ou d'une écrivaine, son œuvre est pas comme les autres, ou il ou elle a une écriture très particulière. Ces lieux communs sont souvent aussi insipides qu'ils sont faux. Dans l'immense étendue de la littérature, il est souvent aisé de voir qui a influencé qui, aussi bien par la façon d'écrire que par le contenu idéologique et philosophique d'une œuvre. Mais, il faut aussi l'admettre, il y a de rares écritures qui paraissent comme hermétiques au monde extérieur, repliées sur elles-mêmes, si singulières qu'on peine à y déceler les fossiles cachés d'une littérature passée. C'est le cas de celle de Nathalie Sarraute. Outre la fameuse étiquette du nouveau roman, c'est une écriture qui trace son propre chemin, parle son propre langage, vit dans sa propre temporalité. Les plus doctes y reconnaîtront peut-être rapidement les traces d'une certaine littérature anglo-saxonne, adepte des fameux « stream of consciousness », mais dont l'écho dans la poétique de Sarraute reste bien distant. Dans ce deuxième d'une série de 5 à voix nues de Nathalie Sarraute, au micro de Daniel Salnave, l'autrice retrace justement le fil de ses influences diverses et variées. D'abord adepte des écrivains russes et des classiques, ce n'est que plus tard, au début de sa vie d'adulte, qu'elle se voit confrontée aux écrivains contemporains, dont la modernité et la radicalité la poussent à forger son propre sceau littéraire. Sarraute, de ses lectures d'enfance à la genèse d'une œuvre irrémédiablement moderne donc, c'est tout de suite, dans une émission diffusée pour la première fois le 24 mars 1992.
Entretien d'hier et d'aujourd'hui.
Aujourd'hui, Nathalie Sarraute s'entretient avec Daniel Salnave. Deuxième entretien.
On sait que les écrivains français, très souvent, ne parlent, ne lisent, ne comprennent pas beaucoup de langues en dehors de la leur. La France était très fermée sur elle-même pendant très longtemps. Peut-être les choses vont changer. Et vous, vous êtes, à cause de cela, un écrivain français tout à fait particulier, à cause de cette rencontre des langues.
On regardait Beckett, on regardait Ionesco.
C'est vrai.
On regardait Nabokov même. Enfin, il n'est pas écrivain français. Mais enfin, tous les écrivains russes, à peu près sans exception, parlait couramment 2-3 langues.
Les écrivains, oui.
Tolstoï parlait, je crois, le français, l'anglais et l'allemand, couramment. Tous, même Dostoïevski, connaissait admirablement bien le français, je crois, l'allemand. Ici même, Montaigne, je crois, parlait couramment l'italien, et encore je ne sais plus quelle langue. Alors je ne crois pas que le fait de connaître plusieurs langues change, parce que quand on est dans une langue, quand j'écris, il ne me vient, pour ainsi dire, sauf dans le portrait d'un inconnu, je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux expressions anglaises. Mais jamais je ne sors du système, sinon. Il ne me vient jamais à l'idée, tiens, on pourrait dire ça mieux dans telle langue. Je suis comme enfermée dans un certain système d'où je ne bouge pas. Alors ça ne me dérange pas.
Ce qui est frappant, c'est cette rigueur de la langue que vous employez. Quand vous dites « je suis à l'intérieur du système d'une langue », on le sent parfaitement. C'est une langue qui n'est pas une langue de caractère ou psychologique ou colorée par des traits sociaux ou individuels. Elle a quelque chose de très pur.
Je ne m'en rends pas compte.
De très pur, oui, très pur, je veux dire par là, c'est un instrument très, très précis.
Mais elle est proche quand même, je crois, de la langue parlée, davantage. Il me semble, je ne sais pas. Parce que je l'entends en écrivant.
Je dirais de la langue entendue, c'est vrai.
Quand j'écris, je ne vois pas tellement ce qui est écrit, mais j'entends. J'entends chaque phrase.
Mais quand vous dites la langue parlée, ça impliquerait des tournures, des façons de...
Ah oui,
oui.
Peut-être. Oui,
donc ce n'est pas en ce sens que vous dites de langue parlée,
oui.
Mais de langue dite tout haut.
Oui, peut-être, oui, c'est ça.
Oui, oui.
Prononcée.
De langue, voilà, de langue prononcée plutôt. Oui, c'est pour ça que je disais que c'était un instrument très rigoureux. Elle dégage des rapports. Vous avez un recours à la syntaxe ou très détaillé qui cerne les objets.
Il y a une telle part chez moi d'inconscient que ça m'est très difficile de juger. D'instinct, je veux dire, tout à fait. Comme d'ailleurs tout ce que j'écris, je ne me dis pas d'avant, j'emploie telle forme, elle vient. Comme ça.
Vous disiez que vous réécriviez beaucoup, que vous corrigiez vous-même en réécrivant des pages que vous corrigez. Vous m'avez dit une fois que la première page était une chose très importante,
oui,
pour vous.
Et qui ne change pas. Je vois la plupart de mes livres, même je crois presque tous, ça commençait, il y avait un début et qui ne bouge pas. Mais comme un tremplin solide qui donne d'où je pars, voilà.
Et c'est vraiment la première page écrite ?
Généralement, une page ou deux écrites.
Ce n'est pas une page qui devient la première
temps. Non, jamais. C'est le point de départ, là. Même quand c'est des morceaux séparés après.
C'est le point de départ. Tout est là.
Oui. C'est très curieux. Même dans l'usage de la parole, ce sont des morceaux séparés. Et bien, ça commençait par le premier. C'est dans l'ordre où c'était écrit. Je n'ai pas changé l'ordre des morceaux.
Donc, le projet du livre et l'écriture de la première page, c'est un peu la même chose.
Un peu, oui.
Comme Valéry disait que le poème, c'est le premier vers. Après, disait-il, vient arrive toute la difficulté. Toute la difficulté arrive après.
Oui, c'est ça.
Après la première page. Oui. Alors, vous faites des plans, vous anticipez sur la suite ?
Ben, je ne fais pas les plans, mais j'essaie de trouver de la substance. Alors, dans un cahier, je note ces mouvements intérieurs. Parce qu'il faut qu'ils se décomposent, ils grossissent, ils se déroulent. Alors, je note dans un cahier d'habitude. Et puis après, je commence à rédiger.
Et ces notes dans un cahier, ça peut être à n'importe quel moment de la journée
Non, c'est toujours le matin. Toujours le matin.
Et dehors, de préférence.
Oui, dehors, généralement. Même toujours.
Toujours. Oui. Vous avez toujours travaillé dans votre café.
Alors, depuis la guerre, en tout cas.
Vous avez expliqué une fois que c'était pour des raisons aussi tout à fait familiales.
Tout à fait.
Et ça ne vous gênait pas, le bruit autour ?
Du tout. À la maison, le moindre bruit me dérange, là-bas, rien.
Oui, parce
je n'entends rien, absolument rien.
Oui, vous fuyiez le bruit domestique, mais vous aviez le bruit des percolateurs, des conversations.
Non, les percolateurs, je ne les entendais pas. Je ne pourrais pas travailler là où il y a un jukebox, par exemple.
Ah bon ?
Non, ça c'est impossible. Mais les conversations, tant qu'on veut, elles ne me concernent en rien, je n'écoute rien.
Et à partir d'un moment où on était habitué en plus à vous voir, à votre table, à ne pas vous déranger.
Les gens, ils sont habitués.
Oui.
Depuis le temps.
Mais par exemple, l'après-midi, vous arrêtez.
Ben, j'y pense, mais enfin, l'après-midi, je fais autre chose.
Vous y pensez, ça veut dire que vous prenez des notes si les choses
non,
viennent.
Non, je n'ai pas besoin de même de prendre de notes ou quelquefois sur une feuille. Mais enfin, j'y pense beaucoup quand même.
Donc, vous travaillez aussi beaucoup intérieurement.
Je crois, oui.
Et cette régularité du matin,
elle m'est nécessaire, tout à fait.
Vous ne vous forcez pas ?
Oh non, c'est insupportable de ne pas le faire.
Tôt ?
Non, avant c'était plus tôt, maintenant j'y vais plus tard. J'arrive à 10h, avant j'arrivais à 9h30.
Et puis
je partais à midi, et maintenant je reste de 10h, je commence à 10h15 par là, et je reste jusqu'à midi.
Toujours ? Et si vous n'aviez pas ces heures, elles vous manqueraient ?
Ah, oh, ça serait très, très pénible.
Alors, en voyage, comment vous faites ?
Moi, je travaille jamais en voyage. Jamais.
Donc, vous êtes contente de rentrer pour retrouver la
régularité ? Je travaillais l'été, toujours avant. Mais depuis quelques années, je ne travaille plus l'été. Alors, avant, nous allions dans des îles grecques. Alors, le matin, je travaillais.
Chez vous ?
Oui. Ou alors, à campagne, à Florence, je travaillais toujours aussi. Alors là, avant, j'allais dans un café, dans une petite ville à côté, à Vétheuil, et puis ils ont installé un jukebox. J'ai cessé d'y aller, alors j'ai arrangé une petite étable qu'il y avait dans cette petite fermette que j'ai, et alors là, je travaille là. On n'entend pas le téléphone, on était très bien.
Et quand vos enfants étaient petits, personne ne venait vous déranger à ce moment-là ?
Ben non, j'ai commencé à écrire déjà en 32, et les enfants allaient en classe déjà.
Oui.
Enfin, allaient à l'école... jardin d'enfants. Et puis 2 heures par jour, on peut toujours les trouver, je crois.
Vous avez écrit tout, toujours à ce rythme de 2 heures par jour,
deux heures. Moi, au bout d'une heure et demie, 2 heures, j'en ai toujours assez. Je suis fatiguée.
Parce que vous décrivez ces mouvements d'investigation.
Je ne peux pas comprendre enfin, comment on peut travailler 6 heures par jour à écrire. Enfin, c'est un fait. Mais ce que je fais, je ne peux pas continuer tellement longtemps.
Il y a un signal qui vous avertit que là...
Une fatigue. Une lassitude et puis j'en ai... Ça m'ennuie.
Oui. Et le signe qu'un livre est terminé, c'est quoi ?
Oh ben quand j'ai plus rien, j'ai l'impression que là, j'en ai assez, je suis au bout, j'ai plus rien à dire, ça suffit comme ça.
Vous avez dévidé là
à peu près,
quelque chose. Vous avez parfois travaillé sur plusieurs textes
non, jamais,
en même temps ?
Jamais.
Jamais du tout ?
Jamais. Ça, c'est impossible.
Il y aurait une contradiction entre eux.
Non, je ne peux pas, je suis plongée dans quelque chose, je ne peux pas en sortir.
Avant que vous publiez les premiers livres que vous avez publiés, est-ce que ce rapport que vous aviez avec les livres de lecture, qui était très ancien, puisque tout enfant, toute petite, vous aviez lu beaucoup, vous avez l'impression que c'était lié, qu'un jour ou l'autre, ça allait se transformer en activité d'écriture ou pas du tout ?
Je pensais, j'aurais été très contente d'écrire, mais je n'avais rien à dire comme ça, rien. Je ne pouvais pas entrer dans les formes du roman. Il me paraissait que ce n'était plus possible. Et alors je n'avais rien, je ne trouvais rien. Je ne cherchais même pas. Et puis c'est venu comme ça, brusquement. Je n'ai pas écrit de texte qui ne soit publié. Tous mes textes qui ont été écrits sont les premiers textes publiés dans Tropisme.
Au fur et à mesure que vous avez...
Voilà. C'est ça. J'ai mis très longtemps à les écrire d'ailleurs.
Pourtant, vous dites, j'aurais bien aimé écrire, mais au fond, je n'avais rien à dire.
Exactement,
je n'avais pas. C'est très bien, oui.
Et les formes romanesques ne me convenaient pas, ça m'ennuyait, si vous voulez. Alors là, j'ai écrit, j'ai fait d'une impression très forte, comme ça, un texte qui se tenait tout seul. Et puis je me suis dit, ce serait intéressant de retrouver des mouvements comme ça. C'était en somme comme des poèmes en prose, si on veut. Enfin... Des petits textes brefs comme ça. À l'époque, je n'imaginais pas qu'on pouvait écrire un roman.
Mais ce qui vous préoccupait, c'était certaines observations qui n'étaient pas forcément destinées au départ à faire un livre, mais qui étaient liées à la...
Des sensations. C'est ça.
À des sensations, j'allais dire à des sensations psychologiques, si je peux me permettre, par certains côtés.
Oui, intérieur, s'il vous plaît.
Oui.
Ça fait tellement peur, le mot psychologique.
Et bien sûr, bien sûr.
Mais enfin, c'est évidemment les mouvements de la vie intérieure.
Vous nous avez aidé à savoir tous les inconvénients du mot psychologie, mais à savoir par quoi on pouvait le remplacer.
Oui, je finissais par dire psychique pour ne pas...
Oui. Dans vos années de formation, vous aviez, donc en dehors de la lecture de Dostoïevski, qui est sur ce plan très importante, est-ce que la lecture de Freud avait été importante
du
pour
tout,
vous ?
Du tout. J'ai toujours détesté ça depuis le début. Il faut continuer.
Mais vous l'avez lu très tôt ?
Oh, je n'ai pas lu tôt non plus, je le connaîtrais assez mal. Ce que j'en ai connaissais ne m'intéressait pas du tout. L'inconscient, où je ne savais pas ce que c'est, il fallait qu'on m'apprenne. Enfin, ça ne convient pas du tout à ce que j'ai envie de chercher ou de trouver du tout. Au contraire, ça m'empêcherait, je crois.
Ça empêcherait parce que ça nomme les choses.
Et ça définit des choses qui me paraissent très monotones, très simples, pas du tout évidentes. Un inconscient qui me paraît d'une pauvreté extraordinaire. Et puis moi, je ne le connais pas, cet inconscient. Moi, ce que je décris, c'est aux limites de la conscience. Et n'importe qui peut le trouver. S'il y met assez de temps, on n'a pas besoin d'un psychanalyste pour le découvrir.
On a besoin de l'écrire pour le découvrir. On ne pourrait peut-être pas le découvrir en se contentant d'y penser.
Peut-être, oui. Si on ne l'a pas écrit, alors ça reste comme quelque chose de flou, une sensation vague. Ça prend corps, si je puis dire, en écrivant, bien sûr.
Finalement, ce sont des découvertes qui sont voisines dans cette première moitié de notre siècle, qui vont depuis le monologue intérieur chez Joyce jusqu'à votre propre recherche.
Je crois que là, ce qui m'a fait une très grande impression, c'est quand j'ai lu, j'étais à Chamonix, c'était en 24, j'ai lu à la recherche du temps perdu, du côté chez Swann. J'étais bouleversée, absolument bouleversée par ça. Et puis, peu de temps après, j'ai lu Ulysse, et encore peu de temps après, j'ai lu Virginia Woolf. Et voilà des livres qui m'ont certainement beaucoup impressionné. Je ne crois pas que j'aurais pu écrire comme je l'ai fait après si je n'avais pas du tout lu ces écrivains-là.
Bon,
ça m'a arraché, si on veut, à la forme classique.
Oui. Et puis ça confirmait peut-être aussi l'intuition que vous aviez qu'il y avait ces lignes à suivre, ces choses.
C'est tout un monde qui s'ouvre à chaque fois.
Oui, tout un monde. Oui. Et qui était un monde vraiment à faire apparaître. Qui
tout à fait extraordinaire. Oui. Il me semblait qu'on ne pouvait plus qu'écrire comme avant eux.
Et Kafka ?
Oh non, Kafka, je ne l'ai connu que très très tard. En 1935, une amie m'avait donné ça à lire. J'avais commencé Tropisme en 1932. Et à l'époque, j'étais persuadée qu'il était impossible d'écrire, répondit Pierre Divan. Des idées très arrêtées là-dessus. J'ai ouvert, je crois que c'était le procès. Non, c'était, je crois, le château. J'ai vu, répondit. Je l'ai refermé, j'ai dit non, c'est trop décevant, ça ne m'intéresse pas.
Après, vous avez changé.
Ça, j'ai changé quand j'ai lu, mais c'était en 1947, je crois, que j'ai lu le procès, et qui m'a vraiment bouleversé.
Là, vous pouviez passer par-dessus les obstacles,
oh, oui,
le répondis-je, dit-il, etc. Oui. Quand on ne le sait pas, mais on n'a pas besoin de savoir tout cela pour vous lire, quand on ne le sait pas, on pourrait penser que la lecture de Kafka allait dans le sens... si je prends un récit comme La Métamorphose, par exemple...
Eh bien, figurez-vous que ça m'avait un peu choqué quand je l'avais lu. C'est Sartre qui m'avait dit, vous n'avez pas lu Kafka. C'était en 45, en 46, quand je le rencontrais quelquefois, quand il avait écrit cette préface. Et il m'avait dit, il disait La Métamorphose, et ça m'avait choqué. Je trouvais ça grossier, brutal, simple. Enfin, c'est après ça que j'ai lu le procès, et là, alors, j'étais complètement conquise.
Et Sartre, vous avez dit de commencer par La Métamorphose.
Moi, m'avait dit, lisez La Métamorphose. Et je lui avais dit, j'aime pas du tout ça.
Il vous avait lu sans vous connaître à ce moment-là. Vous l'avez connu quand il a écrit la préface, Sartre.
Je l'avais rencontré, je lui avais, quand c'était sorti chez De Noël, il m'avait dit, envoyez-le à Sartre. Il avait fait paraître quelques mois avant La Nausée. Il avait un grand succès. Il m'avait écrit un mot très gentil, puis je l'ai rencontré sous l'Occupation quand il faisait ces petits groupes-là de résistance. Ils n'ont pas duré longtemps. Et puis après la Libération, j'étais assise au Café de Flore, et puis il est venu me demander ce que je faisais. Je dis, je suis en train d'écrire un roman cette fois-ci. Ah ben ça m'intéresse beaucoup, j'aimerais le lire, j'étais en train de le faire. Je le finissais. Alors je lui ai passé le manuscrit encore. Il n'était même pas achevé. Alors il avait dit, j'aimerais bien en prendre pour les temps modernes et puis écrire quelque chose dans les temps modernes. C'était très bien. Il n'y avait que les temps modernes, d'ailleurs, à l'époque.
Oui.
Et puis après ça, impossible de le faire accepter ou que ce soit, il avait dit, il faut que je fasse une préface.
Quel effet vous avez fait cette préface quand vous
l'avez lu ? J'étais pas contente.
Je
trouvais qu'il fallait... Ça serait pas, même avec la préface, il n'arrivait pas à trouver un éditeur. Gallimard l'avait refusé avec la préface, Poulain l'avait refusé, et puis il l'a donné à Nagel, qu'il a gardé un an, il l'a refusé après. Et enfin, Robert Marin l'a pris, il a détruit très rapidement, on a vendu très peu. Alors, il fallait une préface. À l'époque, Sartre avait une telle renommée, même avec sa préface, on n'en voulait pas.
Quels étaient les arguments de Poulain ? Vous les avez su?
Oh, il avait dit... Sartre l'avait même invité à déjeuner pour essayer de lui faire dire, mais il n'a rien voulu dire.
Il n'a rien voulu dire.
Simplement, il n'y comprenait rien, c'est tout.
Oui. C'était trop loin de ses préoccupations,
Et les tropismes aussi, il les avait refusés.
Oui, je crois qu'on ne mesure pas, c'est tout récent, tout de même, après tout, c'est l'année d'après la guerre, mais il y avait en effet une sorte de rigidité quand même des catégories.
Très grande rigidité.
Très grande rigidité.
Oui, moi, c'était très difficile. C'est Robert de Noël qui a accepté le tropisme juste avant la guerre.
Et vous, avec cette tranquillité qui vous faisait dire « je ne lis pas Kafka parce qu'il y a trop de réponses, dit-il et dit-il », vous aviez raison, parce que ça vous permettait de faire... Dans un sens, dans un premier temps, vous en étiez victime, puisque ce livre avait trouvé des difficultés à être publié, mais ça vous permettait de sortir de cette...
Complètement.
C'était ça, votre grand désir.
Seul.
Oui. Peut-être pas d'être seul, mais en tout cas de ne pas obéir à des conventions.
Oui, c'est ça.
Et vous sentiez seul quand même.
Évidemment.
Complètement.
Ah, complètement. Et puis je connaissais personne dans les milieux littéraires.
Oui, le milieu dans lequel vous viviez n'était pas un milieu d'écrivain et littéraire. C'était... Mais vous aviez auprès de vous un grand soutien dans la personne de votre mari pour ce que vous écriviez.
C'était un très très grand soutien. Très grand, ça je dois dire. Depuis le début et toujours.
Et qui était lui-même un grand lecteur et qui aimait les livres.
Qui se trompait rarement, je dois dire.
Qui se trompait rarement.
À mesure que le temps se déroulait, je disais, je serais ta seule erreur.
Et il y a des livres qu'il vous a fait lire dans la littérature française ou étrangère qui sont passés par lui, soit quand vous étiez tout jeune.
Oui, il m'a fait connaître. Quand nous sommes rencontrés, je connaissais bien les classiques et lui connaissait bien les auteurs d'époque. Alors il m'en a fait lire. Il m'a fait lire Gide, il m'a fait lire Henri de Régnier, je m'appelle.
Et maintenant, vous aimeriez encore lire Gide ? Son journal, peut-être ?
J'ai le journal, là, il faudrait que je le regarde. Mais j'ai été toujours une admiratrice de Palude, et je le suis restée. Palude est resté pour moi quelque chose de... Vraiment une œuvre littéraire tout à fait remarquable.
Mais moi, j'ai aussi souvent cette impression, quelquefois, quand je relis certains livres de Gide, je suis moins heureuse, et pourtant, il a une figure qui ne... dont la lumière ne s'atténue pas, il continue d'être...
Il y avait quelque chose dans sa forme, tout de même.
Oui, et la relecture du journal est toujours très, très impressionnante,
J'avais très envie de le relire.
Vous lisez volontiers des journaux, des correspondances ?
Ah oui, tout à fait.
Ah oui, vous aimez beaucoup cela ?
J'aime beaucoup.
Récemment, vous en avez lu, des journaux ?
Qu'est-ce que j'ai lu récemment ? Franchement, je ne me rappelle plus.
Et des correspondances aussi ?
Ça m'échappe pour le moment.
Si ça revient, on en parlera. Correspondance de Flaubert, vous l'aimez ?
Oui, c'était très intéressant. Je ne dirais pas que c'est sa meilleure œuvre, comme on le dit.
Comme disait...
Pas
c'est,
du tout.
Non, c'est Gide lui-même qui l'avait dit, peut-être, je ne sais plus.
Moi, une grande admiration pour Madame Bovary. Je ne peux pas comparer avec sa correspondance.
Non. Cette impression de solitude que vous aviez, mais vous la ressentiez comme quelque chose de pénible ou comme nécessité dans la mesure...
Comme nécessité, comme quelque chose de tout à fait naturel.
C'est bien ça.
Ça paraissait tout à fait normal. Et je pensais même qu'il n'y aurait aucun éditeur ne prendrait les tropismes. Nous en étions sûrs.
Vous pensiez que l'état de la littérature et de l'édition le refusait.
Même quelques amis avec qui j'en avais lu des passages disaient qu'ils n'y comprenaient absolument rien.
Alors, ça veut dire qu'un grand écrivain forge le goût de ses contemporains, parce qu'on ne pourrait pas imaginer maintenant quelqu'un qui dirait « je ne comprends pas ». Il y a quelque chose qui est arrivé maintenant dans la littérature
maintenant,
française.
Maintenant, on comprend tout, même ce qui n'est pas compris.
Ça, je ne suis pas sûre. Mais s'agissant de vos livres, on ne peut pas imaginer quelqu'un qui dit « je ne comprends pas ». Donc, vous avez fait bouger les choses.
Oh, mais je crois que ça a toujours été comme ça, que des auteurs qui étaient des auteurs qui paraissaient très difficiles sont devenus des auteurs pour enfants, presque. Vraiment.
Non, mais on voit, c'est bien que Proust n'était pas lu avec beaucoup de facilité par ses contemporains.
Claudel disait, je me prends la tête à deux mains, je ne comprends absolument rien.
Oui, c'est épouvantable.
Et maintenant, n'importe qui peut lire Proust. Ça paraissait très difficile. C'est très curieux.
Petit à petit, vous êtes aperçu que d'autres écrivains avaient le même désir d'écrire une littérature.
Vraiment, non, je ne connaissais pas.
Vous ne connaissiez pas.
Non.
Alors donc, au fond, avant la célèbre photographie des éditions de Minuit qui fonde le nouveau roman,
c'est
après l'ère du soupçon.
Mais quand De Noël avait pris les tropismes, il m'avait dit, je vais vous éditer dans la même collection où j'ai édité un auteur qui a écrit quelque chose d'épatant, c'est Chêne et Chien de Queneau. Et il m'a passé Chêne et Chien, que je dois encore avoir, que De Noël m'avait passé, dans la même édition de tropismes. Et j'avais trouvé ça épatant.
Ah, vous avez bien aimé.
Oh, je connaissais par cœur encore le début.
Vous le connaissez encore ?
Je suis née au Havre en 1903, je ne sais plus quel mois. Ma mère était mercière et mon père mercier. Il trépignait de joie. Ça commence. Je trouvais ça merveilleux.
Voilà encore quelqu'un qui écrivait des choses qui n'étaient pas du tout prévues dans la convention littéraire
et que de l'époque. De Noël l'avait pris.
Ah oui.
C'est un merveilleux jeune éditeur.
On
a été assassiné sous l'occupation. Il avait publié Céline d'ailleurs. Qui avait été refusé aussi.
Vous aviez aimé Céline quand...
J'avais beaucoup aimé Le Voyage au bout de la nuit.
C'était en 37
Oh,
un peu avant,
31
33.
33, je crois.
Et vous aviez beaucoup aimé.
Quand il avait raté le prix, c'était Les Loups de Guy Maslin qui avait eu le Goncourt. Nous étions furieux.
Et Beckett ?
Alors, j'ai beaucoup aimé Godot quand je l'ai vu la première fois. Où il n'y avait personne dans la salle.
Vous l'avez vu dans la mise en scène de Roger Blin en
1954 la première fois, et pendant au moins 3 semaines, il n'y avait rien. Moi, je riais, je trouvais ça épatant. Et c'était admirablement joué par ce clown, je crois, comment il s'appelait. J'avais trouvé ça très, très bien. Mais bon, très peu de temps après, ça a eu un grand succès.
Mais en effet, le début. Au moment où il l'a créé, il le raconte plusieurs fois, Roger Blin le raconte, il n'a eu aucun...
Oui, oui. On se disputait avec des amis parce qu'ils nous reprochaient de trouver ça très bien. Mais après, très peu de temps après, ça a eu du succès.
Roger Blin raconte qu'il a présenté cette pièce à Strasbourg, je crois, et qu'un ami à la sortie lui avait simplement dit « Et à part ça, comment tu vas ?» Ce qui était le signe que la chose ne prenait pas du
c'est
tout.
Comme ça
et puis ensuite...
Ça.
Donc vous avez commencé à connaître Beckett par, par Godot
dans... Uniquement, oui, par Godot. Alors, j'avais lu déjà Murphy, que j'avais aimé, j'avais trouvé très bon. Mais j'aimais beaucoup les premières pièces de Ionesco, par exemple.
Ah,
la cantatrice fauve, la leçon, la victime du devoir, tout ça, on allait à la Huchette pour le regarder.
Mais ce que vous dites prouve que les regroupements qu'on fait d'écrivains, toujours pour créer des écoles, des mouvements, sont... pas toujours juste. Par exemple, bien sûr, on vous associe aux écrivains dits du nouveau roman, mais
il n'y a rien de commun entre
vous associer à Queneau, Beckett, Ionesco, à cette période
c'est
de la littérature, tout aussi bien.
Qu'il y avait une sorte de revendication commune que j'avais commencé dans l'ère du soupçon, qui les avait intéressés, qui avait intéressé Robrier, mais ce que nous écrivions était complètement à l'opposé, si je puis dire.
Là, du soupçon, vous l'aviez écrite parce que vous pensiez qu'il fallait
mettre
un peu...
Oh, parce que j'étais tellement seule que je finissais par me demander moi-même pourquoi je ne pouvais pas faire autrement.
Donc c'était pour vous-même aussi, pour y voir plus clair.
J'ai vraiment écrit pour moi-même. Le premier, c'était Dostoïevski à Kafka, parce qu'il y avait cette lutte entre les deux.
Oui.
Et moi, je trouvais que Kafka aussi était de la psychologie, si on peut dire, comme Dostoïevski. Qu'il était impossible qu'il y ait une littérature s'il n'y avait pas de vie psychique.
Oui.
Qu'elle était basée là-dessus, que le langage littéraire est basé là-dessus. Ce que j'avais voulu montrer dans de Dostoïevski à Kafka. Et puis après ça, j'avais écrit L'heure du soupçon pour m'attaquer à cette obligation de créer des personnages dits vivants, et puis, etc. Et puis quand tout ça est paru, et puis conversation et sous-conversation, enfin, au fond, je me défendais moi-même.
Et à ce moment-là, on vous a invité à en parler, à faire des conférences
non,
sur ce sujet ?
Non, pas du tout.
Alors à ce moment-là,
Arlan avait pris ça pour la NRF, conversation et sous-conversation, que Sartre avait refusé pour les temps modernes. C'est trop contraire à ses idées.
Ah oui.
Et puis après, j'ai ajouté à ça un article, Ce que voient les oiseaux, qui était dirigé en somme contre le réalisme socialiste. Et Arlan l'a fait paraître en volume. C'était en 56, je crois. Et à ce moment-là, Rob Grier était très intéressé par ça. Il avait écrit un article dans Critique. Il avait voulu me rencontrer. On s'est rencontrés sous l'égide de Gadoff au Château 2. Il avait dit qu'il faudrait un mouvement littéraire. Moi, j'ai dit je ne connais personne, je suis complètement seul. Alors, il a écrit un article dans la revue Critique sur l'ère du soupçon, où déjà... Il disait qu'il est d'accord sur tout ça, sauf sur l'idée de la vie intérieure. Donc ça, c'est de la blague. Et puis après ça, il a écrit dans la NRF, en mettant comme exergue une phrase de l'ère du soupçon. Et puis quand il a écrit là, il m'a demandé de leur donner les tropismes aux éditions de Minuit. Et c'est sorti en même temps que la jalousie. Alors Émile Henriot, qui détestait les deux livres, avait écrit « sont des nouveaux romans ». Ça a beaucoup réjoui. Il était enchanté. Il était un merveilleux propagandiste. Et c'est lui qui il connaissait beaucoup de gens. Il était aux éditions de Minuit, enfin. Moi, j'étais toujours très seul. Je le suis comme je suis resté d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'est venu ce mouvement du nouveau roman. Ils ont publié Butor après, Emploi du temps, puis Simon...
Finalement, c'est quelquefois un mot à caractère critique ou péjoratif qui est fondateur d'une école, les fauves.
Il n'y avait pas d'école.
Non, mais c'est oui, c'est cela, oui.
Ça n'avait rien de commun avec le mouvement surréaliste, par exemple.
Non.
Rien. On ne se rencontrait jamais. Il y a eu cette photo qui a été prise tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Et on ne savait même pas ce que l'autre écrivait. Ça n'avait rien de commun, en général.
À voix nue, entretien d'hier et d'aujourd'hui. Nathalie Sarraute s'entretenait avec Daniel Salnave. Réalisation Daniel Finot.
C'était le deuxième de 5 épisodes de La Voix Nue de Nathalie Sarraute au micro de Daniel Salnave, diffusé pour la première fois le 24 mars 1992.